Terrorist networks, terrorist states, terrorist networks, terrorist states.
Et non, 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 nous ne sommes pas des terroristes, Pascal.
Et non, toujours pas des terroristes.
Toujours pas des terroristes. Divergence numérique, 171e émission au sommaire cette semaine. Eh bien, la revue de presse pour la semaine 22 de l'april avec Luc et Manu. Nico n'est toujours pas revenu. Une revue de presse qui se terminera par le projet de loi sur l'école. L'usage du libre devenait une priorité. On en reparlera puisque depuis, ça c'était le titre de PC Impact. PC Impact a titré « Le gouvernement et les députés suppriment la priorité au libre, du libre à l'école ». On en reviendra après la revue de presse qui a été enregistrée avant le fameux vote. Et puis on parlera de ce qui se passera à Pierre-Vive ce vendredi 7.
Oui, à Pierre-Vive, avec notre invité Gildas Cousin qui est parmi nous et qui nous parlera justement d'université populaire et puis d'open data.
Voilà, ce sera ce vendredi à Pierre-Vivre à partir de 19h à l'amphithéâtre Pierre-Vivre 907, figurez-vous, sur les logiciels libres et l'open data qui constituent une réponse citoyenne et écologique au monde numérique de demain. Et puis ensuite, Luc Fievet nous a envoyé une petite interview de Grégory David, de son nom d'artiste Groslo, un artiste numérique qui est sélectionné pour représenter la France au 7e jeu de la francophonie à Nice du 6 au 15 septembre 2013 dans la catégorie création numérique. Il fait des installations avec des capteurs de pression, des capteurs optiques, avec des petits cailloux, du sable, des bouts de bois et plein d'autres choses encore. Et puis le fil musical du jour aujourd'hui, c'est une découverte résonante.
Oui, un artiste qui s'appelle Jap Jap du fameux net label Monotonique.
Voilà, et donc ce 6 titres sur cette EP du Hollandais Jasper Boer, aka Jap Jap, intitulé donc Resonant Discovery, avec quelques mix aussi, on en écoutera quelques extraits, c'est assez minimal, mélodique, et parfois quand même un petit peu rythmé. Pour l'heure, c'est la revue de presse de l'april avec Luc et Manu.
Liberté, égalité, fraternité.
Une majorité de la société mise en esclavage.
Que l'argent public doit payer qu'une fois.
Et là, c'est la voix du peuple qui a parlé.
Revue de presse hebdomadaire.
De l'april.
So it is not just a free software problem.
Une volonté politique de prendre le contrôle du net.
Privatisation de ce bien commun.
Avec Luc, Manu et Nico.
Des mouchards dans nos ordinateurs.
Des coups de poutoir contre la neutralité du réseau.
Revue de presse de l'april, semaine 22 de l'année 2013. Salut Manu.
Salut Luc.
Alors on a une revue de presse qui est très juridique et institutionnelle.
Et plutôt conséquente. 22 articles au total, 8 principaux. Donc il y a des choses assez amusantes, comme toute l'histoire de LinuxFR et l'effet stressant qui s'est déroulé ce week-end, HTML5 et l'EFF, l'innovation ouverte, l'open source et l'entreprise, on va vous parler du plan Maroc numérique 2013, les ministères qui doivent détailler les dépenses, le cloud et la solution Linux, et pour finir, le sujet du moment, vraiment très important, qui nous tient à cœur à l'april, on va vous parler de l'éducation nationale et du numérique. Il y a des choses qui se passent en ce moment même à l'Assemblée nationale.
Numérama, Linkeo s'en prend à LinuxFR et récolte un effet stressant. Article de Julien L.
Donc, il y a eu un gros problème juridique qui est tombé vendredi midi, officiellement.
Oui, et c'est de nouveau un effet stressant. On en avait évoqué un il n'y a pas très longtemps sur... Sur quoi d'ailleurs? Oui.
Et bien sur la DCRI qui avait voulu effacer des informations sur Wikipédia voilà. À propos d'un centre dont on se fiche en fait, mais finalement la page a été traduite dans 27 langues et diffusée dans le monde entier, contrairement à ce qu'ils voulaient forcément.
Voilà, et donc la linuxfr.org, qui est donc un site tenu par des bénévoles, qui est une sorte de plateforme d'information des libristes, et donc cette entreprise avait dans le forum passé une annonce puisqu'elle cherchait à recruter.
Recruter justement des techniciens pour bosser sur le site web. Malheureusement, il y a eu un commentaire qui critiquait de manière tout à fait factuelle, mais assez fortement leur site web.
Il n'était pas très gentil dans ses commentaires.
Ah, il les a traités de stagiaires, mais
Il est allé voir leur site et relever toute une série d'erreurs techniques. Du coup, ça n'a pas plu à cette entreprise qui a fait appel à son avocat.
On peut dire donc que c'est Linkeo et c'est une web agency, donc des spécialistes d'Internet, et qui recommande, c'est marqué sur leur site web, ne surtout pas prendre à rebousse-poil les gens sur le net et notamment de ne pas les attaquer de manière frontale.
Plutôt que de demander à nettoyer, essayer de voir voir comment on pouvait s'arranger avec les gens qui tiennent LinuxFR. Ils ont directement envoyé une lettre de leur avocat demandant à effacer les éléments et à payer 1500 euros sous 48 heures, puisqu'en gros, le préjudice était considérable.
Effectivement, ils étaient choqués. Bon, bah, ça n'a pas bien marché. Les gens de LinuxFR sont plutôt intelligents. Ils ont effacé l'annonce originale. Ils ont légèrement modifié le commentaire pour enlever le nom. Et pour le coup, ils ont mis une news où ils mettaient un duplicata de la lettre. Et là-dessus, c'est la news maintenant la plus vue sur LinuxFR, la plus commentée, la mieux notée.
Puis ça a été repris à droite et à gauche sur des blogs importants, dans la presse un peu spécialisée. Donc ce fameux effet stressant. Donc cette boîte s'en mord les doigts.
Elle s'est excusée.
Elle s'est excusée. Et
deux fois.
En plus de ça, bah, les geeks ont commencé à se jeter là-dessus, à aller regarder les sites web à la fois de l'entreprise, de l'avocat et à trouver des failles dans tous les coins et des machins.
Oui, il y avait des FTP ouverts, c'était très amusant. Et voilà. Ils ont cartographié tous les serveurs grâce au DNS, enfin des choses connues. On sait que leur politique de nommage est basée sur Goldorak, c'est assez rigolo.
Donc bon, c'était l'événement du week-end, a priori maintenant c'est fini. En tout cas bon, c'était rigolo, ça fait rire pas mal de monde ce week-end. Numérama, HTML5, l'EFF se dresse contre les DRM en déposant une objection formelle. Un article de Julien L. à nouveau.
Là, on reparle de ce qui a déjà été abordé.
Alors, l'EFF, c'est l'Electronic Frontier Foundation, qui est une association américaine qui s'intéresse aux libertés, libertés publiques dans le domaine informatique et des réseaux.
Des gens bien, donc. Hein. Et pour le coup, eh ben, ils ont été voir d'autres gens a priori bien. Le W3C, un des organismes qui gère les standards sur Internet et en grande partie qui fait fonctionner Internet.
Et qui, depuis 3 semaines, on en parle toutes les semaines, je crois à peu près, mène un projet pour mettre des DRM directement dans le langage HTML.
Donc en gros, c'est pour faire plaisir à certaines entreprises qui vous permettent de louer des vidéos sur le net, ça se fait beaucoup, ça marche assez bien, il semblerait, mais ils veulent s'assurer que vous ne pouvez pas dupliquer ces vidéos, et donc ils veulent modifier les protocoles du net au cœur hein, pour rajouter des mécanismes de monotes numériques et ne plus vous permettre de faire ce que vous voulez avec votre ordinateur.
Donc ça pose des problèmes en termes de logiciel libre, puisque pour contrôler absolument l'usage que vous allez pouvoir faire de ces fichiers, il faut qu'il y ait une part à laquelle vous n'ayez absolument pas accès. Or, c'est contraire à nos principes, où on doit pouvoir accéder au code source et le modifier à loisir, et donc ne pas se faire enfermer. Donc évidemment, la vidéo, c'est l'élément qui est là, et ce que dit l'EFF, hein, c'est qu'en gros, c'est un premier pas dans un Internet verrouillé, contrôlé, que si on commence comme ça, on ne sait pas où ça va nous mener.
Je rappellerai, hein, les vendeurs de musique en ligne ont tourné Kazakh, ils ont mis plein de menottes numériques au début, ils se sont rendus compte que c'était pas très bon pour leurs clients, parce que finalement les clients qui suivent les règles étaient lésés. Et donc ils ont petit à petit enlevé ces menottes numériques voilà, et leur marché...
Ça marche pour la vidéo parce que c'est l'équivalent de la location avec des fichiers qui sont valables 48 heures. Et notamment dans la musique, ils avaient eu plein de problèmes parce que dans la durée, quand il suffisait de changer de machine, de faire des copies, etc., ça finissait par plus marcher, c'était vraiment une usine à gaz. Sur 48 heures, ils s'en sortent à peu près. Mais on est toujours dans une situation où il faut avoir le lecteur, le système d'exploitation adéquat et avec des trucs pas très marrants comme... des contrôles sur l'usage. Alors, j'ai un exemple que j'aime bien, j'ai un collègue qui a fait ça. Un fichier valable 2 jours, il a regardé la moitié du film le premier jour en se disant « je regarderai la suite demain ». Et le lendemain, il s'est aperçu qu'il ne pouvait pas reprendre le film à la moitié. Le lecteur lui imposait de recommencer la lecture au début du fichier. Ça donc du plaisir. Coup, il n'a pas vu la fin du film et il était bien dégoûté. Le cercle Les Échos, l'innovation ouverte est-elle vraiment ouverte? Un article de Pénin Julien.
Donc rien que le titre est assez bizarre, l'article aussi quelque part, parce qu'on parle d'innovation ouverte, mais c'est pas de l'ouverture au sens dont on parle d'habitude.
La notion d'open innovation, l'intérêt de l'article, c'est qu'il nous explique que c'est quelque chose qui est apparu en 2003 et qui n'est pas lié au mouvement libre et open source. C'était l'idée d'avoir d'échanger des informations et des savoir-faire entre entreprises.
Oui, entre personnes du clan, parce qu'elles utilisent justement les droits d'auteur, les brevets et les différentes règles de la propriété intellectuelle pour s'échanger entre elles, et donc ils appellent ça de l'innovation ouverte entre les gens bien, on peut échanger de manière
consensuelle. Cet article il a deux intérêts, hein. Le premier c'est effectivement de recadrer le truc, parce qu'à une époque où tout est open et que c'est un truc très à la mode et qu'on fait de l'open washing, il recadre en disant attention, l'open innovation c'est pas dans ce cadre là. Deuxième truc intéressant, c'est qu'il va parler de ça en disant que derrière il va y avoir du brevet, des choses comme ça, mais que le système libre tel que nous on l'apprécie fait partie de ça et que c'est une stratégie parmi d'autres. Donc ça c'est les deux éléments positif, mais après ça on sent quand même dans l'article qu'il y a un côté très pro-verrouillage.
Oui, hein, on sent bien qu'il y a des entreprises qui veulent faire du business, qui sont entre copains, et d'ailleurs c'est un bon moyen d'exclure les nouveaux arrivants, et qui oublient tout simplement que bah, l'innovation ouverte, au sens où nous on l'entendrait, ce serait du logiciel libre, ce serait bien la méthode scientifique, hein, tout simplement.
Où ça, ils oublient d'en parler, hein, c'est que la méthode, ce que moi j'appelle l'économie du savoir scientifique, je crois que je ne suis pas le seul, c'est cette idée de publier, donc que ce soit que les informations, les résultats des recherches soient publics, qu'on soit validé par ses pairs. Ça, ça a comme largement prouvé sa valeur et son efficacité.
Au cours des siècles, oui.
Voilà, ça, il n'en parle absolument pas dans son article. Il parle de brevets qui permettent de se défendre. Il y a quand même des entreprises et des très grosses entreprises qui vont également poser des brevets sur des choses qu'ils ne vont pas exploiter, mais de telle sorte que leurs concurrents ne puissent pas aller faire fructifier un terrain qu'eux auraient négligé, mais très volontairement. Et je sais que ça se fait notamment dans les cosmétiques. J'avais lu un article là-dessus il y a un an ou deux.
La guerre des brevets qui a fait beaucoup parler et qui a fait beaucoup de mal économiquement, des grosses dépenses pour faire en sorte que les gros se tapent les uns sur les autres et empêchent les petits d'arriver sur le marché.
Voilà, on en parle depuis 2 ans. Apple, Google, Microsoft qui se tapent dessus.
Et dans le pharmaceutique, je crois que c'est pas mieux, hein, loin de là.
Et donc, il faudra quand même qu'il nous explique comment tout ça est quelque chose d'absolument positif pour l'innovation. ZDNet, logiciel libre et open source en entreprise, la nécessité d'une politique précise, un article de Thierry Noisette.
Donc, c'est un des résultats du salon logiciel libre et open source. Donc, où on était d'ailleurs. Et là, il y a eu des tables rondes, il y a eu des discussions d'entreprise en grande partie, parce que c'est quand même un truc très industriel, hein, très pro. Et là, qu'est-ce qu'il disait sur justement comment une entreprise doit gérer au mieux le libre et l'open source en son sein.
Alors, autant l'article précédent est assez pro verrouillage, propriété intellectuelle, tout ça, là, on est avec des entreprises qui sont plutôt pro-libre, évidemment, puisque c'est au salon en question, mais avec des grosses boîtes comme HP, par exemple, et ils expliquent qu'il faut avoir une politique, c'est-à-dire réfléchir en termes de licences, puisqu'il y a quand même des conséquences juridiques en fonction des licences qu'on utilise.
Oui, qu'on néglige parfois, mais que justement, voilà, il faudrait éviter.
Et qu'on est amené à prendre des briques logicielles, et qu'il faut avoir une politique pensée à l'avance en disant, on peut faire telle et telle chose, ou pas telle ou telle autre, et dans telle ou telle condition.
Donc, dans une certaine mesure, ils vendent peut-être un peu de leur soupe, mais pourquoi pas, parce qu'ils proposent des services d'audit, de supervision, pour s'assurer d'avoir une stratégie d'organisation de son code, et vérifier, suivre quelles sont les licences qui s'appliquent, quelles sont les...
Est-ce qu'elles sont compatibles entre elles, etc.
Ah, par exemple, et donc des choses qui peuvent être intéressantes. Si votre boîte veut faire du libre et commence à avoir une certaine taille, ça peut être pertinent à réfléchir. Généralement, on fait une section avec des gens qui sont spécialisés sur le libre.
Voilà, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'HP a un logiciel donc qui a automatisé tout ça. Et en tout cas, c'est intéressant qu'il y ait des réflexions là-dessus parce que c'est effectivement une des critiques à l'encontre du libre qui n'est pas complètement fausse, hein, qui est de dire qu'avec la multiplication des licences, ça devient un casse-tête juridique qui est très compliqué. Et eux disent, à partir du moment où on y va, on le sait à l'avance et qu'on y réfléchit à l'avance, on peut s'en sortir et il y a des outils pour ça. Donc la démarche et la réflexion est très judicieuse. La vie éco, logiciel libre, le grand oublié du plan Maroc numérique 2013, un article de Zakaria Larache.
Donc un nouveau site que je n'avais pas vu avant, mais qui est assez intéressant, avec un bon article assez classique finalement, les avantages, les inconvénients du libre, au niveau d'un pays, au niveau de ses administrations et de ses entreprises. Donc là, on parle du Maroc en particulier.
Et il cite un plan numérique, ça fait un petit peu penser à ce qui se passe chez nous et dans d'autres pays.
Mais moi, c'est ce que je crois voir en entre-lignes. Hein. C'est effectivement, il y a un côté, on veut suivre ce que font les grands, et pourquoi pas.
C'est pas évident, puisque... Enfin, je me suis dit, ça ressemble un peu à ce qu'on fait en France, puisque dans ce plan numérique 2013, le logiciel libre n'est pas prioritaire.
Oui, ça fait mal au cœur, on en parlera un peu plus loin, parce que c'est complètement d'actualité. Ceci dit, voilà, le rédacteur de cet article a l'air, lui, de pousser à fond pour le libre, toutes les qualités dont on a pu parler dans le passé, et si vous voulez les revoir bien, allez voir cet article sur la vie éco. Donc, des choses bien, honnêtement, j'espère
que... Ce que je trouve intéressant, c'est que nous, en France, on parle beaucoup d'argent, et on en parle ces dernières semaines en disant que l'argument monétaire est souvent mis en avant, et là, la conclusion, l'argument qui est mis en avant dans la conclusion... Une citation de Mohamed Zanan, qui est donc un universitaire marocain, qui dit « À mon avis, l'utilisation du logiciel libre dans l'administration n'est plus un choix, mais une obligation dictée par les principes mêmes de la transparence et de la bonne gouvernance qu'elle véhicule. » Et donc, on n'est pas dans des questions de fric, on est dans des questions de transparence et de gouvernance. Et donc, ça fait plaisir de voir que le libre est reconnu dans cette dimension-là.
J'irais même jusqu'à dire « On applaudit et j'espère que ça aura des conséquences positives. »
PC Impact, les ministères priaient de détailler les dépenses en logiciel libre et non libre, un article de Xavier Bern.
Donc on va en parler rapidement, mais c'est quand même un peu amusant. Quelqu'un est en train de spammer le gouvernement et les ministères à base de questions sur le libre. Donc,
C'est la suite de ce qu'on avait évoqué la dernière fois ou l'avant-dernière fois.
Oui,
sur,
c'est la même personne.
Voilà, c'est la même personne. Donc il y avait une première question qui était passée il y a quelques mois qui avait amené à dire...
Quelques semaines. On en a parlé il y a très peu de temps.
Oui, mais la question avait été posée bien avant.
Ah,
il a fallu le temps de calculer. C'est combien l'État dépense en licence de logiciels propriétaires. Donc, une fois la réponse obtenue, donc, cette députée, Mme Isabelle Attard, a posé autant de questions qu'il y a de ministères et en disant « Et vous, combien vous dépensez en logiciel libre et en logiciel propriétaire? Donnez-nous les chiffres. »
Donc on sait que le gouvernement est très très bien organisé. S'ils sont très bien organisés, ce ne sera pas difficile de répondre. Mais on peut s'attendre à ce que justement il y ait des petites erreurs qui puissent se glisser.
Ce sera intéressant de faire la comparaison.
Voilà, il va y avoir une bonne comptabilité analytique à ressortir de tout ça, une petite comparaison. Ça peut être assez fun.
En tout cas, ce sera des infos très intéressantes, centrées sur l'argent, mais...
Pourquoi pas ?
Mais intéressantes quand même. Le monde informatique, solution Linux 2013, l'open source à l'assaut du cloud par Jacques Chemina.
Donc on recontinue sur solution logiciel libre et open source. Mais
c'est
là,
un article bilan et qui est centré sur cette question du cloud, l'informatique en nuage. Bon, il n'y a rien d'absolument fabuleux, il cite toute une série de produits et en disant que on ne parlait que de ça sur le salon.
Moi je vois un côté intéressant à cet article, c'est qu'en fait il a détecté quelle était la mode du moment et effectivement la mode du moment c'est le cloud computing.
On le savait déjà quand même.
On le savait déjà, mais là, il a simplement confirmé la chose. La petite chose amusante, c'est qu'il y a plein de boîtes qui, en fait, en faisaient sans le savoir et qui ont renommé un petit peu leur stratégie, leur technologie. Elles font du cloud, c'était d'ailleurs de l'hébergement qui existe depuis déjà longtemps. Donc, allez lire l'article, ça permet de suivre un petit peu ces actualités-là.
PC Impact, projet de loi sur l'école, l'usage du libre devient une priorité, un article de Marc Ress.
Et donc l'actualité du moment dont on parle et qui est la principale occupation à l'April.
Qui revient en troisième semaine, ce projet de loi qui est discuté, le Sénat, une commission du Sénat a dit « mettons du libre à l'école de façon prioritaire ».
Alors au début c'était même de façon obligatoire,
exclusive.
C'était du libre et des contenus ouverts.
Et donc c'est pas dans la revue de presse parce que ça date de samedi et c'est discuté ce soir même puisque nous sommes lundi au moment où nous enregistrons. Le gouvernement a complètement liquidé ce machin, en tout cas dilué dans une formule qui est en gros il faut le prendre en compte, ce qui ne veut pas dire grand-chose et est absolument pas contraignant.
Donc c'est rageant, il y a eu trois étapes, c'était obligatoire, c'était prioritaire et maintenant il faut le prendre en compte si cet amendement est accepté.
C'est pas encore voté à l'heure où on enregistre.
Mais en tout cas, cet article 10, on attend impatiemment qu'il passe à l'Assemblée nationale, qu'ils en discutent. Il est possible qu'il soit voté tel quel. Aujourd'hui même, il y a des gens qui téléphonent, qui envoient des mails pour essayer de s'assurer que les députés aient un petit peu les bons sons de cloche.
Ça montre cette difficulté à avoir une politique volontaire. On rappelle qu'en Grande-Bretagne, en Italie, aux Pays-Bas également, je crois, il y a des politiques très volontaires qui imposent du logiciel libre dans les administrations, enfin là on est dans le cas de l'école, mais en tout cas...
Marchés publics.
Voilà, qui arrivent à imposer le logiciel libre, chose qu'on n'est pas capable de faire, on n'arrive pas à aller au-delà de la déclaration de bonnes intentions. Très bien, c'est la fin de cette revue de presse. Merci Manu.
À la semaine prochaine.
Salut tout le monde.
C'était la revue de presse de l'Association pour la promotion et la recherche en informatique libre, l'APRIL, proposée par Emmanuel Charpentier, Luc Fievet et Nicolas Vineau.
Et on les remercie, Nicolas, qui n'était pas là. Et oui, c'était donc lundi, un peu avant minuit, que le gouvernement a fait passer son amendement visant à ne plus faire du libre. Une priorité dans le service public éducatif numérique. Le vote a été acquis avec les voix du PS et de l'UMP, unis donc pour refuser cette priorité. Malgré l'opposition des écologistes et des radicaux, petit rappel, la phrase qui avait été mise dans le texte, c'était « L'enseignement à distance utilise en priorité des logiciels libres et des formats ouverts de documents. La phrase, aujourd'hui, est devenue « Dans le cadre de ce service public, la détermination du choix des ressources utilisées tient compte de l'offre de logiciels libres et de documents au format ouvert, si elle existe. » Alors je me demande dans quel cas de figure elle pourrait ne pas exister. Là, c'est vraiment avoir écrit une phrase pareille, ça dénote quand même... comme à l'accoutumée d'une certaine inculture en la matière, mais
ou des lobbies,
Christine
peut-être.
Albanel nous avait déjà habitués à ce genre de stupidité. Eh bien, la stupidité continue, la bêtise pense, comme disait le poète. On n'est pas sorti de l'auberge. On rappelle qu'en 99, déjà, il y avait eu une proposition de loi pour garantir la pérennité des données accessibles, faciliter les échanges et assurer le libre accès des citoyens à l'information. Il faut que l'utilisation de l'administration ne dépende pas du bon vouloir de concepteurs de logiciels. C'était à l'époque Pierre Lafitte, René Trépied, Trégouet et Guy Cabanne. Donc ça date pas d'hier et espérons que les propos de l'écologiste Barbara Pompili qui dit face à la force économique des logiciels propriétaires, laisser se faire les choses ne suffit pas. Il faut des politiques beaucoup plus volontaristes car les forces en jeu sont dissymétriques. On peut espérer que ces paroles fassent école, on va dire ça comme ça. Mais c'est pas terminé pour autant. Alors l'April évidemment a sorti un communiqué qui demande à ce que des études précises sur les raisons qui ont fait modifier ce texte soient fournies, parce que pour l'instant il y en a pas. L'April qui rappelle que c'est sous la pression de l'AFDEL, du Syntec numérique et de l'AFINEF que finalement ce texte a été révisé à la baisse. Encore une fois, si le poids des lobbies dans une démocratie suffit à faire pencher la balance sur les sujets aux solutions aussi évidentes, ma bonne dame, où allons-nous ? Et oui. Enfin voilà, il fallait quand même le dire et nous l'avons dit, c'est dit, ce n'est peut-être plus à dire, mais non, ce sera à répéter encore mille et une fois. On va écouter un petit peu de musique donc avec Jap Jap et ce titre Winds of Change, des vents du changement dont on espère donc qu'ils viendront bientôt. Et puis ensuite on parlera de ce qui se passera vendredi à Pierrevive. Jap Jap est un Hollandais donc qui a sorti cette EP Resonant Discovery chez Monotonic. Et c'est sous licence.
C'est pas sous licence, c'est librement. C'est téléchargeable.
Librement téléchargeable.
Et librement spreadable.
Spreadable.
C'est-à-dire que vous pouvez le diffuser comme ça.
Mais
librement.
S'il n'y a pas de licence, ça veut dire que c'est pas libre.
Il faut demander la permission si vous voulez faire autre chose, par exemple de la commercialisation.
Donc c'est un peu comme du ISA, ND ou NC.
Non, c'est du public domain.
C'est de la musique. Thank you. C'est complètement planant, hein, Jap Jap.
Jap Jap.
Alors, a priori, on dirait plutôt Yap Yap, puisque c'est un batave, notre ami, comment s'appelle-t-il déjà Jasper Boer. Eh bien, voilà, c'était donc Winds of Change, un extrait de ce Resonant Discovery chez Monotonic. Alors, on a un peu cherché pendant ce temps-là.
C'est pas tout jeune, hein. C'est pas tout jeune. Parce que les auditeurs de Divergence FM, s'ils écoutaient Les Libres, ma musique en 2009, eh ben, j'en avais passé justement quelques bouts de cet album.
Voilà, ce n'est pas la nouveauté de la semaine, vous l'aurez compris, raison pour laquelle peut-être qu'à l'époque, ils ne savaient pas trop. Alors, sur le site de Monotonic, on voit que pas mal de titres sont mis sous Creative Commons par leurs auteurs. Sur le site de l'artiste lui-même, il y a quand même une mention tout au bas du site.
Du site.
Qui veut peut-être parler que du site, mais enfin, c'est quand même un copyright. Et non, pas
et non tu peux télécharger ces musiques directement
voilà.
sur
alors,
le site.
Alors, c'est librement téléchargeable, voilà. Mais aucune licence précise n'est accolée à ce répertoire, ce qui en fait un objet d'étude, sans doute. Mais nous n'aurons pas le temps d'étudier cet objet, car nous allons étudier ce qui vous attend si vous vous rendez à Pierre-Vive ce vendredi 7 à partir de 19h. Et c'est Gildas Cousin, ingénieur conseiller technique de l'association Montpel Libre qui présentera cette conférence et qui va nous la présenter. Bonjour Gildas.
Bonjour.
Alors peut-être présenter un petit peu d'abord ton parcours, comment tu es devenu ingénieur conseiller technique à Montpel Libre, peut-être après avoir travaillé 20 ans à IBM.
Oui, je connaissais déjà Montpel Libre, même quand j'étais encore dans cette multinationale. Et quand je me suis retrouvé au chômage, j'ai eu un peu plus de temps libre. Et ben, j'en ai profité pour donner un peu plus de mon temps pour promouvoir le logiciel libre.
Mmh. Logiciel libre que tu utilisais déjà depuis longtemps ?
Ah, depuis quasiment le début de Linux. En 1993, j'étais déjà sous Slackware. Même avant, j'ai récupéré les disquettes. Et en fait, j'ai suivi en fait toute l'évolution du logiciel libre depuis, on va dire, 1991.
Voilà. Oui, donc ce qui sur le plan technique te donne une bonne compétence pour pouvoir conférer et puis informer les gens. Le titre de l'intervention, c'est « Les logiciels libres et l'open data constituent une réponse citoyenne et écologique au monde numérique de demain ». Du logiciel libre à l'open data, il y a forcément un pas, même si on passe d'une compétence un petit peu technique à aussi une compétence un peu juridique, en quelque sorte.
Le fait est que dans le logiciel libre, la notion de logiciel libre...
Il faut parler très près du micro.
Oui. Le fait est que dans la notion de logiciel libre, il n'y a pas qu'un aspect technique. Il y a aussi un aspect éthique, on va dire, un aspect collaboratif. C'est ce que Richard Stallman lui-même énonce lors de ses conférences en France, parce qu'il parle couramment le français. Il résume en fait les quatre libertés fondamentales du logiciel libre en disant que ça se résume à liberté, égalité, fraternité. Et alors, liberté, effectivement, le logiciel libre, on voit très bien le rapport. Égalité, on le voit aussi dans les quatre faits de base du logiciel libre.
Oui, parce que tout le monde a le droit d'avoir accès. Hein, tout le monde est égal
égalité,
dans le code.
C'est-à-dire que ce n'est pas le logiciel qui a la main sur l'utilisateur et pas l'inverse non plus. Et personne n'est maître de quoi que ce soit. Où tout le monde est maître de tout. On va plus simplifier comme ça. Et fraternité, c'est que ce modèle encourage beaucoup la collaboration. Le fait, par exemple, d'améliorer un programme et d'avoir le droit de redistribuer cette amélioration, c'est fondamental dans ce modèle-là. Mmh. Et dans le collaboratif, par exemple, dans l'open data, c'est exactement de ça dont il s'agit.
Oui, Pascal ?
Non.
Alors, comment se construit cette conférence ? J'imagine que c'est une conférence que tu proposes au plus grand public possible. Donc, il ne s'agit pas de rentrer dans des détails extrêmement, extrêmement pointus, sauf s'il y a des questions qui le sont. Est-ce que c'est la première fois que tu fais cette intervention ou est-ce que c'est une intervention qui a déjà subi le feu du public ?
Ce sera pour moi la première fois, en tout cas. Mm-hmm. Hein. Donc, effectivement, ça s'adresse à un public très large, de néophytes même, pour expliquer ce que c'est que le logiciel libre et de façon plus étendue l'open data et tout un tas d'aspects de notre vie quotidienne. Ça parle de privation de liberté, ça parle de vie privée, ça parle de tout un tas d'aspects qu'on rencontre de plus en plus fréquemment actuellement avec tout un tas de technologies qui n'étaient pas là il y a même 5 ans. Quand on parle par exemple de la téléphonie portable, il n'y avait pas autant de téléphones, de smartphones il y a 5 ans.
Oui. D'ailleurs, qui ont des sonneries stéréo avec effet 3D, etc. Dont Pascal, d'ailleurs, nous vient de nous livrer un échantillon. Voilà. C'est quelle synchronisation, c'est vraiment,
dingue. On peut positionner Pascal exactement sur la carte de France en ce moment. Hein.
Ah, super.
Oui. Ce qui pose aussi un problème. Alors justement, parce que s'adresser au public le plus large, quand on parle de logiciels libres, c'est forcément aborder aussi la question de la sécurité, hein, puisque la viralité, c'est un des principaux arguments qu'utilisent ceux qui y sont passés pour dire depuis qu'on y est passé, waouh, plus vraiment besoin d'antivirus, finalement c'est bien. Surtout que le plus grand public, c'est celui aussi qui est le plus dupe, qui est hélas le plus souvent le dindon de la farce, qu'il s'agisse aussi de ventes liées. Alors j'imagine qu'il y a des questions qui vont sortir du public comme ça sur ces thématiques, la vente liée, la sécurité informatique, même si c'est vrai que les gens, quand on leur parle de vente liée, ils ne savent toujours pas vraiment ce que c'est. Enfin, les gens ne s'offusquent pas d'aller au supermarché, de voir que tous les ordis sont en vente avec tel ou tel système, même si ça fait quand même les choux gras de certains procès, du militantisme d'associations de consommateurs, que ce soit la PRIL ou que choisir, etc.
Il y a des lois surtout derrière.
Et surtout que c'est tout bêtement un non-respect de la loi qui est dénoncé depuis que l'informatique quasiment existe. Donc ça, c'est des thématiques aussi qui intéressent bigrement les gens, même s'ils ne le savent pas encore quelque part.
Oui, tout à fait. C'est prévu que j'en parle demain soir. Alors le but, évidemment, ça ne va pas être de révolutionner les choses, mais déjà de faire comprendre, enfin de faire prendre conscience aux gens que quand ils achètent une machine, il y a un certain pourcentage du prix de cette machine qui est réservé à certains OS. En majorité deux OS qui sont de chez Apple et de chez Microsoft. Et en fonction de ça, les gens peuvent après choisir en connaissance de cause et peut-être opter pour une solution libre. Effectivement, il y a toute une problématique de non-respect de la loi. Oui, tout à fait. C'est surprenant, mais je pense que le fait de sensibiliser un maximum de gens et de continuer à le faire, ça peut-être qu'un jour, les choses pourront basculer. À partir du moment où on atteint un certain seuil, peut-être que les choses peuvent bouger. Mais là, je pense qu'on est, malgré tous les efforts qui ont été faits depuis, on va dire, 10 ans sur Linux ou sur le logiciel libre, enfin, surtout depuis une dizaine d'années, il y a quand même eu de grandes avancées qui ont été faites, mais ça ne suffit toujours pas. Et de toute façon, c'est la problématique de la liberté en général. La liberté, c'est quelque chose qui se conquiert chaque jour et sans relâche.
Absolument. Autre point assez amusant, Pierre-Vive, là on est dans le fief du Conseil Général, hein, c'est le département. Le plan Lordi, ici en Languedoc-Roussillon, il a été fait un petit peu à l'envers de ce qui s'est fait à l'île de la Réunion, puisqu'on avait vu à Strasbourg, au RMLL, les Réunionnais qui étaient venus et qui avaient expliqué comment ils avaient fait Lordi avec du Linux et comment ils y avaient pensé bien longtemps à l'avance en expliquant aux revendeurs qu'il fallait qu'ils s'y mettent s'ils voulaient. Croquer. Et du coup, ça avait très bien marché parce que le double effet du truc, c'était que les enseignants avaient été formés à utiliser leur distribution avant que les élèves la découvrent. Donc, en plus, les enseignants avaient un principe d'autorité, ce qui n'est pas le cas quand on donne des laptops sous Windows à des profs qui ne savent pas s'en servir, alors que le gamin de 15 ans sait mieux s'en servir qu'eux. Donc, du coup, le prof passe pour un naze et il perd de l'autorité en tant qu'enseignant, ce qui est quand même la dernière des choses à faire. J'imagine que dans l'assemblée de jeunes, dans le jeune public qui risque d'être présent demain, puisque Pierre-Vive attire la jeunesse aussi, il risque d'y avoir plein d'étudiants comme ça ou d'élèves de lycée qui vont peut-être poser la question.
J'espère bien qu'il y aura un maximum de gens et que effectivement donner l'occasion aux gens de poser des questions. Il y aura d'ailleurs une partie qui sera réservée aux questions-réponses, et, parce qu'il est légitime effectivement que les gens puissent savoir.
Oui, parce que là encore une fois, c'est pas à l'école qu'on saura apprendre l'informatique en primaire, en secondaire ou au lycée. Ça n'en prend pas vraiment le chemin, puisqu'on en parlait juste tout à l'heure. Donc, tous les âges sont invités, même si le public visé, c'est marqué adulte. Mais bon, je pense que n'importe quel ordinateur, utilisateur d'ordinateur peut être intéressé. Et puis, la conférence dure combien de temps ça se répartit comment entre l'intervention et les questions ?
On va dire trois quarts d'heure, une heure sur la conférence proprement dite, et puis les questions-réponses, nos limites. Enfin, nos limites.
On ferme. Et 23 heures, on ferme.
C'est l'amphithéâtre Pierre Vive 907 qui accueillera ce rendez-vous. J'ignore la jauge de cet amphithéâtre, mais je pense qu'il y aura assez de place pour que tout le monde puisse s'y rendre.
On peut être 200.
Alors, vous qui nous écoutez, rendez-vous à Pierre Vive ce vendredi 7 à partir de 19h.
C'est ouvert à tous.
C'est ouvert à tous. Et puis, c'est gratuit. Donc, il suffit de descendre au tram Halle de la Paillade. On retrouve cette info, bien évidemment, sur le site de Pierre Vive, où c'est mis en avant, ainsi que sur montpel-libre.fr, bien évidemment. Merci beaucoup, Gildas, d'être venu nous présenter cette conférence. Et puis...
J'ai une petite question.
Pascal, une question.
Est-ce que ta conférence sera enregistrée
Oui.
Voilà, une bonne chose. Nous en prendrons sans doute quelques extraits pour la mémoire.
Aux archives départementales, quand même.
Pour les émissions prochaines. D'ailleurs, on attend toujours la mise en ligne des choses de solutions Linux. On vous avait promis ça pour cette semaine, mais finalement, ce sera pour probablement la semaine prochaine.
Ils sont encore dans le jus, à tous les coups.
Ils sont encore dans le jus. Dans le jus de quoi ? Certainement pas dans le jus de fraise. On enchaîne donc toujours avec notre Yap Yap, qui ce coup-ci nous interprète des cubes colorés, un remix de Morgan Fish, le poisson du matin, avec ses cubes colorés.
C'est ma préférée, celle-là.
C'est ta préférée. Oui. On écoute tout de suite. Et oui, de la musique. Alors toi, tu préférais le non-remix.
Le non-remix, c'était...
Voilà, bon, ben, là, j'aurais su, j'aurais parlé, j'aurais non, passé Colored Cubes tout seul et non pas le Colored Cubes du remix de Morgan Fish. C'est comme quoi, le poisson du matin, c'est pas tout le temps...
C'est fait pour ça aussi, cette musique-là. C'est pour se l'approprier, puis la redonner à l'artiste avec une version différente.
Voilà, tout à fait. Et puis, tant qu'on vous tient, on revient sur, sur l'histoire du projet à l'éducation nationale, etc. Petit rappel, si vous prenez l'émission en cours, lundi soir, les députés ont voté l'amendement qui, finalement, faisait non plus une priorité, mais... Allez, si c'est possible, vous le faites, du logiciel libre dans l'éducation nationale. Il faut préciser que le Sénat en première lecture et la Commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale en seconde lecture avaient voté une disposition qui donne la priorité donc au logiciel libre et au format ouvert dans le futur service public du numérique éducatif. Malheureusement, le gouvernement, donc cédant sans doute aux pressions de l'AFDEL, du Syntec numérique et de l'AFINEF, ont déposé le fameux amendement vidant cette disposition de la substance. Et lors de la séance publique de mardi 4 juin aux alentours de minuit, donc l'amendement 359 a été soumis à la discussion puis au vote. Il faut savoir que malgré le vote de la disposition initiale, donc qui faisait priorité au logiciel libre en commission des affaires culturelles et de l'éducation, Yves Durand, le rapporteur de la dite commission, a émis un avis favorable à l'amendement du gouvernement, arguant de difficultés juridiques et non politiques avec la formulation actuelle de l'alinéa 7 de l'article 10, expliquant notamment que selon l'argumentation de Vincent Payon, inscrire la priorité au logiciel libre dans la loi serait contraire au droit européen de la concurrence. Alors l'April serait ravi de lire l'analyse détaillée juridique appuyant cette information, car pour le moment, le gouvernement procède par affirmation non étayée sur ce point. L'histoire n'est pas terminée, le feuilleton continue. La mobilisation doit se poursuivre, puisque l'examen du projet de loi sur la refondation de l'école de la République se poursuit en séance publique à l'Assemblée nationale et sera ensuite examiné en seconde lecture au Sénat. Donc tout n'est peut-être pas perdu par rapport à la possibilité d'apprendre de la vraie informatique à l'école et non pas d'apprendre juste à se servir d'un client mail ou d'un navigateur web, ce qui quand même de nos jours est assez ridicule.
Heureusement qu'il y a ces navettes entre le Parlement et le Sénat quand même.
Ouais, pour tricoter. Le tissu législatif. À présent, une interview de Grégory David, aka Groulot, un artiste numérique qui est sélectionné pour représenter la France au 7e jeu de la francophonie à Nice du 6 au 15 septembre 2013 dans la catégorie création numérique.
Bonjour Grégory. Grégory David, alias Groulot. Tu es un artiste, un véritable artiste qui fait de la création numérique. Est-ce que tu peux nous présenter ça un peu plus en détail ?
Bonjour Luc et bonjour chers auditeurs. Donc, en effet, je suis un artiste. Alors, tu dis un véritable artiste, je ne sais pas s'il y a des faux artistes.
Hein, un artiste en vrai, en tout cas.
Voilà, un artiste en vrai, un artiste qui se joue sur scène. Alors que pendant très longtemps, en fait, je ne l'ai pas fait. Pendant très longtemps, je n'ai pas été sur scène par une trop grande crainte, une trop grande timidité, en fait.
Ton spectacle, c'est un spectacle complet, hein. C'est pas juste de la musique, il y a une scénographie, de la musique électronique, plein de choses. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu à quoi ça ressemble ?
Alors, en effet, c'est autre chose que de venir avec mon laptop et me poser devant les spectateurs et fournir une diffusion de musique électronique. Mon objectif a été, en collaboration avec Sandra Guillen, qui a fait la scénographie de ce spectacle, donc Groulot en vrai, l'idée c'était de fournir un événement spectaculaire qui participe à la contemplation musicale et à donner des images ou des pistes pour imaginer un monde, un environnement onirique pour le spectateur.
Alors pour avoir vu ton spectacle, tu te présentes sur scène avec une espèce d'établi avec plein d'objets et qui donne une impression très étrange, très particulière, et tu commences à déplacer des objets, manipuler des éléments de ton établi et ça va créer des sons, des lumières, sans qu'on comprenne trop comment c'est possible.
Voilà, tout à fait. Les objets qui sont déplacés, ce sont soit des figurines fabriquées par Sandra Guillen, soit j'utilise du gravier, du sable, des objets de la vie courante, un moulin à café par exemple. Enfin bon, maintenant on utilise moins en moins les moulin à café. Des objets qui sont générateurs de sons et que je sample en fait, que je retravaille en temps réel pour alimenter une trame sonore déjà conçue. En soi, c'est un spectacle d'improvisation reposant sur, on pourrait dire, une sorte de playback, quoi. Il y a ce double jeu entre la musique électronique de synthèse programmée, qui, elle, est dans la machine, et la musique plutôt concrète, issue de l'expérimentation avec les objets, qui, elle, vient alimenter donc cet ensemble et fournir une dimension poétique supplémentaire.
Tu situes tout à fait dans le domaine du spectacle vivant, hein, il s'agit
oui,
de faire plus que de la musique, de vraiment la proposer dans un contexte complet. Tu parlais donc de gravier, on a du mal à faire le lien entre la partie musique électronique et la partie gravier, c'est comment tout ça peut fonctionner ensemble?
Techniquement, en effet, c'est un jeu, une composition d'un ensemble de technologies qui sont alors des technologies simples, hein, à la base, tantôt donc de la captation sonore avec des micros, tantôt de la captation physique avec des capteurs de distance, des capteurs de pression, des capteurs de lumière, et finalement lier tout ça et faire en sorte que des informations de captation, qu'elles soient sonores ou physiques, alimentent une bande-son ou transforment la bande-son. Et notamment, les capteurs physiques permettent d'interagir avec des effets sonores, avec des synthétiseurs et avec la lumière aussi.
Et bah, techniquement, tu fais ça comment? C'est des choses que tu as construites toi-même?
Alors, oui et non. C'est-à-dire, c'est plutôt de l'assemblage. Je me base, alors notamment pour la captation physique, je me base sur une Arduino pour pouvoir donc relier et faire cette captation physique. Puis après, dans la machine, j'ai un système de routage en fait qui est conçu dans Pure Data et qui me permet de récupérer et le son et la captation physique et de pouvoir redistribuer ensuite cela suite à une analyse, eh bien, soit vers le séquenceur sonore, soit vers les synthétiseurs, soit vers le séquenceur lumière. Donc en termes d'outils, je ne suis pas en mesure de tout faire avec des outils libres. Lorsque j'ai commencé à faire de la musique, en 98, même si ma musique était libre, pour autant les outils qui existaient et qui pouvaient être performants n'étaient pas des outils libres, en tout cas à ma connaissance. Et donc j'ai appris et j'ai conçu une forme d'écriture musicale avec des logiciels non libres. Et notamment pour le son, je travaille essentiellement avec FL Studio, anciennement Fruity Loops. Donc ça, c'est un logiciel non libre qui fonctionne sur un système d'exploitation non libre. C'est, je dirais, la lacune dans mon éthique. Mais pour autant, je ne suis pas non plus intégriste dans le sens où je suis plutôt pragmatique. J'ai besoin d'un outil. Est-ce qu'il existe? Oui. Existe-t-il en libre? Voilà ce que j'essaye de rechercher en premier. S'il n'existe pas, alors je regarde ce qu'il y a dans les logiciels non libres. Et dans les logiciels non libres, eh bien, je regarde celui qui est le plus avantageux pour répondre au mieux aux besoins artistiques que j'ai. Et je suis mu réellement par le besoin artistique et pas par cette intégrité à tout prix de faire du libre avec que du libre.
Quand tu as toi besoin de construire quelque chose, enfin de créer un élément, soit du code, soit effectivement sur du matériel, tu es dans une démarche d'art libre
complète, en effet, et voilà. c'est très juste. Que je fabrique du contenu ou que je fabrique des outils technologiques, ils sont tous rendus libres. Donc lorsque ce sont des logiciels, ils sont en GPL 3. Lorsque c'est du contenu sonore, vidéo ou image, c'est sous licence art libre, et voilà. Et lorsque c'est des cours, par exemple, puisque mon métier c'est l'enseignement, mes cours sont sous licence FDL.
tu as une échéance très importante sur laquelle je pense que tu passes pas mal de temps et qui est prévue pour 2013, ce sont les Jeux de la Francophonie, où il y a une compétition autour de la création numérique et tu vas représenter la France à cette occasion-là.
Tout à fait.
Comment ça s'est goupillé ce machin ?
Alors, je le dois en grande partie à deux choses. La première, c'est d'avoir eu la possibilité de fabriquer Groulot en vrai, grâce à Teriyaki et à Sandra Guillen. Donc Teriyaki,
c'est un festival.
Voilà, un festival de musique électronique, de musique et de scénographie qui lia au Mans, en Sarthe. Et donc ce festival m'avait donné un peu carte blanche en me disant, on a envie de te programmer et tu viens. Et donc en gros, c'était tu viens avec ton laptop et tu fais ton truc, quoi. Sauf que moi, je voulais pas de ça. Et donc, avec Sandra, on a fabriqué Groulot en vrai. On a joué à Teriyaki, ça c'était donc le premier remerciement que je peux faire. Et le deuxième remerciement, c'est le festival Visionnaire, l'année suivante, donc en mai 2012, où là, Groulot en vrai a pu jouer à Montreuil. Et en faisant partie du plus grand festival de VJ en France, de fait, dans un réseau d'artistes. Et du coup, en étant dans ce réseau d'artistes, le ministère de la Culture m'a contacté en me demandant de candidater, puisqu'il recherchait des artistes pour les prochains Jeux de la Francophonie qui se dérouleront à Nice en septembre 2013. Et donc, j'ai candidaté, dossier, blabla, tout ça, et puis sélection officielle fin janvier. Pour les Jeux de la Francophonie qui se dérouleront à Nice, il faut que je fasse une œuvre originale de type audiovisuel.
Donc tu fais quelque chose de nouveau, un nouveau spectacle. C'est pas celui que
c'est pas Groulot en vrai,
que tu présentes jusqu'à maintenant.
Ouais. Donc c'est Groulot qui se met en œuvre pour faire ce nouveau spectacle qui s'appelle Plébiscite, qui est donc artistiquement c'est un mélange, donc encore une fois une transdisciplinarité entre de la vidéo projetée, du son et tout ça entremêlé par un jeu de scène un petit peu à la Groulot en vrai, quoi. Donc des objets qui sont tantôt générateurs de son, tantôt modificateurs de son. Et donc le sujet est imposé par les Jeux de la Francophonie. Moi, j'ai eu envie de détourner le sujet pour en faire quelque chose qui me convienne plus. Et donc le sujet que j'ai choisi, c'est issu d'une phrase d'Isaac Newton qui disait « Les hommes construisent trop de murs et pas assez de ponts ». Et à partir de là, donc, je vais concevoir une trame narrative autour de ce sujet et de la création de murs et de la destruction de murs. Et pareil pour les ponts, quoi.
Alors pour conclure, est-ce que tu peux nous dire où on peut voir ce que tu fais ? C'est-à-dire que tu travailles sur Plébiscite, mais Groulot en vrai, est-ce qu'on peut voir ça quelque part ?
Bien sûr. Alors il y a le site de Groulot qui est donc groulot.net. Alors Groulot, c'est Groulot. Voilà. Certains le prononcent Groulot, mais non. Tant qu'ils ne m'ont pas tiré, ils peuvent pas m'appeler comme ça.
Très bien. Et par rapport à ce projet en cours, tu es à la charge de financement.
Oui.
Tu as lancé un projet sur Kickstarter, je crois.
Non, c'était Kiss Kiss Bang Bang.
Mais qui est fermé maintenant, mais où tu as récolté une partie de ce que tu souhaitais obtenir. Il n'est pas trop tard pour te donner un petit coup de pouce si on le souhaite.
Tout à fait. Si vous êtes touché par le projet et que voilà, ça vous dit de participer à votre mesure en faisant un don, vous pouvez toujours le faire en allant consulter le site plébiscite.it et là dans la rubrique contribution, vous pourrez trouver tout ce qu'il faut pour pouvoir contribuer.
Très bien. Grégory, merci beaucoup.
Merci à toi.
Et puis bonne chance pour cette compétition à venir.
Merci bien. Salut.
Et on remercie Luc Fievet pour cet entretien. Avant de se quitter, vendredi 7 juin de 14 à 19h, ce sera en les ateliers libres, point libre, permanence Linux et logiciel libre, Linux audio, ce sera 21 boulevard Louis Blanc.
Kawanga.
À Kawanga. Le même jour de 17 à 18h, les ateliers libres, un point atelier Blender au même endroit. Et puis de 18 à 19h, les ateliers point libre, présentation de Inkscape.
Toujours
au même endroit chez Kawanga. À l'amphithéâtre Pierre Vive, ce sera la conférence logiciel libre et open data qu'on a abordé tout à l'heure avec Gilles Das. Mardi 11, les rendez-vous du libre à Nîmes, ça sera au centre socioculturel Marcel Pagnol, 99 rue Marcel Pagnol, à Vergès plus précisément.
Mercredi 12, dans la matinée, le Telia Camp e-commerce libre au coworking de Montpellier, 19 rue de l'école de droit.
Et puis, la fête des ateliers, ce sera samedi 15, toute la journée, à la Maison pour tous, Mélina Mercouri.
Voilà où on pourra rencontrer aussi Montpellier, moi, d'ailleurs.
On remercie François qui a réalisé cette émission. On remercie les auditeurs de Radio Escapade et de Radio Larzac. Et on vous souhaite une excellente semaine.
Excellente semaine.
Et restez libres.
Soyez libres.
Terrorist Networks. Terrorist States. Terrorist Networks. Terrorist States. Terrorist Networks. Terrorist States. Terrorist Networks. Terrorist States.